Chers auditeurs, après avoir achevé le cours de ses études théologiques et accompli au séminaire de Bayonne le temps de formation immédiate prévu par les statuts synodaux, l'aspirant au sacerdoce se rendait auprès de l'évêque de Bayonne ou bien auprès d'un autre évêque pour recevoir l'ordination. Pour Bayonne, nous sommes sur ce point assez bien renseignés grâce à un registre ancien conservé aux archives de l'évêché et où sont consignées toutes les ordinations. Une chose frappe immédiatement, le nombre de diacres qui s'expatriaient pour recevoir la prêtrise. Ainsi, durant le deuxième quart du XVIIIe siècle, c'est-à-dire de 1728 à 1750, 127 prêtres ont été ordonnés par l'évêque de Bayonne. Ce dernier ne les a pas ordonnés dans sa cathédrale, mais toujours dans sa chapelle privée à l'évêché, ou bien à deux ou trois reprises dans la chapelle du grand séminaire. Par ailleurs, 86 aspirants ont reçu des lettres dimissoires, c'est-à-dire l'autorisation exigée par le droit de l'Église à cette époque pour se faire ordonner par un évêque voisin ou plus lointain. En tout donc, durant la période envisagée, de 1728 à 1750, 213 jeunes prêtres ont été ordonnés pour le diocèse de Bayonne. Après 1751 et jusqu'en 1773, durant donc une période équivalente et qui correspond à l'épiscopat de Monseigneur d'Arches, le nombre de prêtres ordonnés par l'évêque diocésain équivaut à une unité près à celui de la période précédente, 128 au lieu de 127. Par contre, le nombre de prêtres ordonnés à l'extérieur tombe de 86 à 37. Des 213 prêtres de la période précédente, on était donc descendu à 165. Le siècle des Lumières faisait sentir sans doute ses effets néfastes sur le recrutement sacerdotal, à moins que cette diminution est eu pour cause les dispositions prises par Monseigneur d'Arches dans ses statuts synodaux. « Comme nous devons éviter, écrivait-il, d'imposer les mains à des ministres inutiles, et que nous ne devons régler notre conduite que sur la nécessité et l'utilité des églises de notre diocèse, nous ordonnerons désormais aucun prêtre qui ne nous promette par écrit de ne point sortir de notre diocèse sans notre permission et d'y travailler sous nos ordres dans les paroisses où nous jugerons à propos de les envoyer. D'où sans doute la diminution des lettres dimissoires. La nomination d'un prêtre à une paroisse n'est pas faite alors comme elle se fait aujourd'hui. C'est avant son ordination qu'un sujet connaît sa destination. Ce qu'on exige avant qu'on l'ordonne, c'est qu'il ait assuré sa subsistance, déjà avant le sous-diaconat, et de peur, dit Monseigneur d'Arches, que la pauvreté ne le pousse à faire des choses qui déshonoreraient son état, le futur sous-diacre ne sera pas admis à l'ordination s'il n'est pas pourvu d'un bénéfice, c'est-à-dire des revenus d'un bien d'église, ou d'un titre patrimonial de 100 livres de revenus. Monseigneur d'Arches donc en a décidé ainsi. La désignation à une paroisse vacante est faite par celui à qui il revient de le faire, l'évêque, par exemple pour la paroisse d'Ossès, le chapitre, par exemple pour Anglette ou Saint-Jean-de-Luz, un laïc, par exemple pour Arneilly, un ordre religieux, par exemple les prémontrés pour Ispour-la-Madeleine, Roncevaux, par exemple pour Saint-Jean-Pied-de-Port. ordonné prêtre par Monseigneur l'évêque, c'est ce dernier qui lui donnera l'investiture canonique, c'est-à-dire qui en fera vraiment le curé de la dite paroisse. Le nouveau curé va entrer en possession de son office, de sa paroisse, de sa cure, cela appelle Charsia, sans faste en général, et il se mettra aussitôt au travail, appliquant dans son ministère les prescriptions du Concile de Trente avec les précisions apportées par Mgr d'Arches au synode de 1749. La recommandation fondamentale qui lui est faite, soit par le Concile, soit par le synode diocésain, c'est d'être pour son troupeau un modèle. Et pour ça, on lui interdit de fréquenter les cabarets et les débits de boissons, à moins de nécessité ou qu'il ne soit par exemple en voyage. Lui sont défendues expressément ces réunions appelées cracades, entre ecclésiastiques et laïcs, ou même entre uniquement des ecclésiastiques. De façon plus positive, les statuts lui imposent quelques exigences, par exemple de porter la soutane dans le lieu de sa résidence. Ces mêmes statuts lui demandent de se constituer une bibliothèque et lui énumèrent les livres qu'elle doit contenir et qu'il devra montrer à Monseigneur au cours de la visite pastorale. Son ministère sera surtout celui du culte, de la célébration de la messe, des sacrements et de l'annonce de la parole. Le dimanche doit être vraiment le jour du Seigneur. La grande messe, dit Monseigneur d'Arches, doit être distinguée de toutes les autres par la majesté et la pompe des cérémonies, et aucune autre messe ne doit lui faire concurrence. Et Monseigneur l'évêque compte d'ailleurs sur les pouvoirs publics pour qu'aucune autre manifestation ne vienne empêcher ou gêner le service divin. Cette messe dominicale est pour Monsieur le curé et les autres prêtres l'occasion privilégiée d'annoncer la parole au peuple. Car annoncer l'évangile aux fidèles, dit Monseigneur d'Arches, est le premier et le plus important de tous les devoirs des pasteurs. Ainsi donc, le dimanche, à la messe, curé ou vicaire, après l'évangile, liront d'abord le prône du diocèse. Il s'agit certainement de celui que Monseigneur Dols avait rédigé. Et ils le feront, cette lecture, posément et à voix intelligible, précise Monseigneur d'Arches. À la suite, ils leur feront une instruction familière, populaire et intelligible. Le thème de cet entretien sera l'évangile du jour ou une autre matière concernant de plus près le salut. Et l'évêque conclut ce chapitre par une considération pédagogique, à mon avis, fort avisée. Les curés n'oublieront pas que c'est un devoir personnel dont ils n'ont pas la liberté de se décharger sur un autre et que leur instruction est plus utile comme étant plus proportionnée aux besoins du peuple, besoins qui leur doivent être plus connus qu'à tout autre. Le dimanche est jour du Seigneur parce qu'il est aussi le jour du catéchisme. Celui-ci sera assuré tous les dimanches et jours de fête et plus souvent encore au carême, à l'heure la plus commode pour les paroissiens. Il est fait surtout pour les adultes qui sont invités à y venir avec leurs enfants et leurs domestiques. Le livre utilisé sera celui qui a été publié par Monseigneur de la Vieuville. Bien d'autres occasions lui seront données pour cette évangélisation. Il y aura en particulier les missions, assurées périodiquement par les prêtres de la Ressort. Et nous n'aurions garde d'oublier la fête Dieu qui mobilise toute la paroisse et pour rien au monde on ne voudrait la négliger ou encore moins l'oublier. Et puis Monseigneur rappelle à Monsieur le curé qu'il doit aussi penser à lui-même. Il doit nourrir sa propre vie spirituelle, maintenir et affermir sa piété et son zèle. Monseigneur de Bellefonds avait organisé des retraites spirituelles pour ses prêtres. Il ne semble pas qu'on les ait reprises par la suite. Par contre, Mgr d'Arche conjure ses prêtres de ne pas négliger d'assister aux conférences ecclésiastiques, soulignant leur importance pour la pureté, l'uniformité de la doctrine et pour l'exactitude de la discipline, et puis pour les aider dans leur ministère, en particulier dans celui de la confession, M. l'abbé Daguerre a mis à leur disposition un manuel appelé « Abrégé de morale », connu, utilisé et apprécié bien au-delà des limites du diocèse. Il est certain que le diocèse de Bayonne, dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, a connu une pléiade de prêtres de grande valeur humaine et sacerdotale. Jean Daguerre en est bien sûr la figure emblématique. Ce sont des prêtres proches des gens et de leurs problèmes concrets. On peut citer par exemple M. l'abbé Darigol, curé de Laonce, qui, au cours de la terrible épisodie de 1774-1775, n'hésita pas à aller en Auvergne chercher de nouvelles bêtes pour repeupler les étables de sa paroisse. Au retour, il se heurta à l'opposition de l'intendant de Bordeaux, qui séquestra le bétail et chargea son subdélégué de Bayonne de procéder extraordinairement contre le curé et les autres auteurs de cette introduction qu'il qualifiait de frauduleuse. Parlons la prochaine fois de la vie religieuse, de la vie consacrée durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avant d'aborder l'histoire du diocèse ensuite pendant la Révolution.